oser son leadership spirituel. Et si le management n'était plus seulement synonyme d'efficacité et de rendement? Et si le modèle qui épuise autant les hommes que la planète touchait à sa fin? Et si quelque chose d'autre était en train d'éclore? Un leadership qui redonne au spirituel sa juste place en entreprise. La société a besoin d'une nouvelle génération de dirigeants et managers audacieux qui osent réformer le système. Des leaders engagés et éclairés. Cette série de podcasts vous est proposée par Karine Mast, fondatrice de Brand Alphabet.
Dans cet épisode, nous vous proposons de découvrir le portrait de Raphaël Griffon, joaillier créateur et gérant de Griffon Joaillier. Au-delà de l'art et du savoir-faire, c'est une démonstration de savoir-être que ce grand explorateur nous donne à vivre. Dans ses expéditions à la recherche de pierres précieuses, il sait rester à l'écoute de son intuition et ouvert aux rencontres humaines qui jalonnent ses aventures. Une présence au monde inspirante que nous souhaitions partager avec vous. Raphaël Griffon, votre premier contact avec le monde de la joaillerie fut une rencontre lorsque vous étiez jeune avec des chercheurs d'or en Guyane?
Oui, l'or en fait, l'or parce que c'est presque plus facile à trouver que des pierres, même si c'est très compliqué. Et puis aussi, c'est presque symbolique, c'est la matière qui va tenir toutes les pierres, c'est-à-dire que vous pouvez avoir la plus belle pierre, le plus beau diamant, ce que vous voulez. En général, un bijou avec une pierre précieuse est tenu soit par de l'or, soit par du platine, mais en général, c'est de l'or. Donc, il y avait un côté un peu matière fondamentale pour le domaine que j'ai choisi après.
À quoi ressemblent vos expéditions à la recherche de pierres précieuses?
Alors là, quand je pars, pendant 2-3 mois, je prépare des expéditions. Ce ne sont pas des voyages. C'est ce qu'on appelle des vraies expéditions, c'est-à-dire qu'on va dans des zones qui sont inconnues ou en tout cas qui sont difficiles d'accès en général. Donc il y a quand même une préparation. L'aventure n'est jamais suicidaire. Souvent quand on m'interroge sur les expéditions que je peux faire, on me pose ce genre de questions en disant vous y allez un peu la fleur au fusil. C'est très préparé parce que tout ce qu'on va rencontrer, les rencontres qu'on va avoir, les choses qu'on va ressentir. On ne sait pas ce qu'on va voir en fait, mais on est prêt en tout cas à les réceptionner, à être bouleversé par ces événements ou ces rencontres. Et puis ensuite, quand je pars, là je suis en train de terminer un film sur les chercheurs d'or en Amazonie. On est parti un mois et demi avec mon cousin là-bas. Bien, on va rencontrer des Amérindiens, on va voir des chercheurs d'or, des garimpeiros, des clandestins. On a fait des missions avec la Légion étrangère, avec les douanes. Enfin voilà. C'est l'humain le plus important. La matière que j'utilise, j'en ai besoin, mais ce qui est fondamental, c'est les rencontres humaines que je vais faire et qui, moi, vont me nourrir dans mes créations et dans mon envie de continuer dans ce métier-là.
Qu'est-ce qui détermine vos choix dans ces destinations? Est-ce que votre intuition y est aussi pour quelque chose?
Alors, au départ, il y a une préparation, c'est-à-dire qu'on sait où on va, on sait à peu près qui on va rencontrer, et après, tout le reste, c'est de l'intuition. Et l'intuition, c'est une accumulation de connaissances qui ressort de façon innée en disant « Tiens, je ressens telle chose et puis je vais m'écouter en fait. Je vais écouter le ressenti que je peux avoir pour aller voir telle ou telle personne, faire telle ou telle chose ou ne pas le faire. » En disant « Je sens quelque chose qui peut être plus ou moins dangereux. Hein, » Là, c'était le cas à plusieurs reprises. « Je ressens, j'ai une sorte d'alerte, je vais pas le faire. » Et je vais le faire un peu plus tard ou je vais le reporter. Je donnerai peut-être des exemples plus tard, mais en tout cas, l'intuition est fondamentale pour pouvoir voyager comme je le fais.
Est-ce que vous qualifierez l'intuition comme une forme de compétence?
Je crois que l'intuition, je ne sais pas si on peut le classifier comme compétence, mais c'est le principal élément qui fait que vous avez envie d'apprendre, vous avez envie de rencontrer et vous avez aussi envie de vous remettre en cause. C'est ce que je disais, c'est une accumulation de connaissances que vous avez générées depuis votre naissance, de gens que vous avez croisés, de choses que vous avez ressenties. Et je pense qu'au moment où on se rend compte de l'importance qu'elle peut avoir, eh bien, on devient plus à l'écoute et on peut aller plus loin dans nos recherches.
plus qu'une compétence, est-ce qu'on peut parler d'une curiosité éclairée?
Oui, c'est ça. Une compétence, je ne sais pas si je le mettrais dans le terme de compétence, parce qu'il y a un côté où compétence, j'entends compétition, ou je ne sais pas si c'est lié ou pas ce mot-là, mais ouais, c'est pourquoi pas. Oui, ça devient en fait, moi, toutes les connaissances que j'accumule, comme n'importe qui, je m'imagine une caisse à outils. J'adore bricoler et quand j'ouvre ma caisse à outils, je me dis plus je vais avoir d'outils, plus je vais pouvoir chercher loin. Et en fait, c'est dans ma caisse à outils un des éléments principaux qui va faire que j'ai envie de continuer de faire ce que je fais.
Vous disiez juste avant que votre intuition vous avait épargné de certains dangers. Vous avez un exemple à nous partager?
Par exemple, les dangers, alors je vais essayer de le faire très court, mais j'ai rencontré un Amérindien, je discute pendant au moins 2 heures. Et puis je le quitte et à un moment donné il me dit Raphaël, faites attention sur la fin de votre séjour. Et donc moi il me restait 3 missions et je devais partir avec la Légion étrangère, avec les douanes et on devait avoir des clandestins du côté de Paramaribo, Suriname. Et je me suis dit en fait je vais prendre son intuition, puisque c'était une intuition, je vais la prendre vraiment au premier degré. C'est-à-dire que tout ce que je vais faire, si je veux monter dans une pirogue et d'habitude je vais monter à l'avant, ben, je vais mettre au milieu. On a pris l'hélicoptère. Je vais être beaucoup plus vigilant en étant en place copilote. On sera avec la Légion étrangère, au lieu d'être devant, je vais mettre au milieu. Voilà, et ben, je vais suivre ces intuitions-là, même si ce n'est pas fondé. Donc je vais m'écouter.
Certaines rencontres humaines ont-elles été, elles aussi, le fruit de votre intuition? Et quelle place occupe-t-elle dans vos expéditions?
Alors, sur les intuitions, après, sur les gens... C'est lorsqu'on se retrouve face à une personne, je dirais, qui va faire qu'on va avoir une intuition, qui va dire bah, continue avec cette personne-là ou pas. Parce que sur la préparation d'un projet, l'intuition, je pense qu'elle peut prendre un autre mot, c'est la volonté de réussir un projet ou d'aller jusqu'au bout. Mais c'est plus l'intuition. L'intuition, c'est un ressenti qui souvent, enfin pour moi, hein, je vais donner ma description, hein, mais c'est un ressenti qui s'explique pas. Mais par contre, qui va vous dire, ben, continue dans ce sens-là ou ne continue pas, va voir cette personne-là ou ne va pas la voir. Je pense que l'intuition vous alerte des bonnes choses comme des mauvaises choses. Après, pouvoir donner une définition exacte, c'est très compliqué. À chaque voyage, de toute façon, on fait des rencontres extraordinaires. Et finalement, il n'y a même pas besoin d'aller à l'autre bout du monde, mais ça prend plus de valeur, en fait, puisqu'on va rencontrer des gens et on est presque sûr de jamais les revoir. J'étais en Afrique, c'était en Côte d'Ivoire où on était monté dans le nord sur des mines de diamants. Et puis là, il fallait demander des autorisations pour exploiter pour aller chercher du diamant. Et le chef du village nous envoie voir une sorcière. Alors, faut s'imaginer dans un village où il n'y a aucun blanc, il y a l'appel à la prière. Et puis on arrive dans une case où vous avez une sorcière avec une espèce de gloître et qui va vous sortir des coquillages et qui va les lancer au sol. On était avec 2 copains et elle va vous décrire en fait ce qu'elle ressent et ce qu'elle voit. Et j'avais été hyper impressionné, même je dirais flippé, parce que dans ce qu'elle disait, il y avait tellement de choses qui étaient vraies. Et puis c'était très étonnant parce qu'on avait 3 caractères totalement différents. Ben, ça reste gravé en disant ben, y a des gens qui ont peut-être cette capacité-là, je ne sais pas. Donc là, c'était sorcière. Après, ben, j'étais avec des Amérindiens. Donc là, vous avez une culture qui va être... basé énormément sur l'approche de la nature, sur le respect de l'homme, des animaux. Ils vont, avant d'aller chasser un animal ou après l'avoir tué, ils vont remercier la nature, ce dont nous, on n'a absolument pas besoin. On verrait ça dans un documentaire. J'ai été vivre avec des Hadzabé, c'est une population qui se trouve près du Kilimandjaro. Et eux, ils ont... une vision, par exemple, de la mort qui est très étonnante, parce que lorsqu'il y a un mort, ils vont l'emmener le plus loin possible hors du village, et ils vont attendre que les hyènes le mangent. Donc il y a une disparition totalement du corps. Et puis si les hyènes sont pas venus, c'est que la personne, soi-disant, n'aurait pas été bonne sur sa vie. Vous passez d'un pays à un autre, d'un continent à un autre, et à chaque fois, vous dites, tout change, en fait. Et vous devez pas l'accepter, puisque c'est pas le terme, mais... vous devez absorber cette réalité en une fraction de seconde en disant « Ok, c'est comme ça qu'il fonctionne. » Et puis, et ça reste toujours magique. Voilà. Donc, on apprend des choses tout le temps dès qu'on voyage.
Dans vos aventures, avez-vous déjà vécu des synchronicités étonnantes?
La synchronicité, pour moi, c'est C'est un autre mot, mais qui veut dire la même chose. C'est la sérendipité. C'est un mot qui est assez récent, qui a plusieurs définitions, mais en tout cas, moi, je vais vous donner la mienne. C'est que le hasard n'existe pas, vous le fabriquez en permanence. Dans le sens que on peut se retrouver à l'autre bout du monde, croiser une personne, trouver un tas de liens et se dire c'est totalement incroyable. Alors oui, c'est incroyable. Et après, quand vous faites la marche arrière en disant mais si j'avais pas fait ça, ça et ça, cette personne-là, je l'aurais jamais rencontrée. Et donc, effectivement, c'est ce qu'on peut appeler la synchronicité, c'est que chaque chose qu'on va pouvoir faire, même dans la vie de tous les jours, aura peut-être une importance dans une heure, dans un jour, un an, 10 ans. C'est surtout qu'on se rend compte que donc chaque chose qu'on va faire peut avoir une importance capitale, je dirais pas pour le restant de ses jours, mais en tout cas, c'est toujours dans le positif. Le côté sérendipité, c'est un mot que j'utilise ou que j'ai en tête de toute façon tous les jours. Tous les jours, je rencontre quelqu'un, j'ai une discussion et je me dis « waouh, c'est génial ». Et quand je refais la marche arrière, je dis ben, « ok, si j'avais pas fait ça, ça et ça, cette personne-là, je l'aurais jamais croisée ». Et en l'ayant croisée, elle m'a appris ça, ça et ça. Voilà. Et puis, elle peut me reporter vers quelqu'un d'autre.
Est-ce que vous suivez les signes? Votre intuition vous sert-elle de boussole, Raphaël?
Oui, parce qu'en fait, je dirais, j'ai eu au départ un côté très mec, le mec qui doit être fort en tout point, et finalement, assez jeune, au cours des voyages, et en rencontrant des anciens, et c'était plutôt en Afrique d'ailleurs, je devais avoir, je sais pas, 20, 21 ans, et puis je rencontre un sage africain et qui me dit, vous savez, le plus grand défaut de la jeunesse, c'est de jamais écouter les anciens, et le jour où un jeune comprend qu'il écoute un ancien et qu'il gagne 20 ou 30 ans de sa vie, il aura compris beaucoup de choses. Ce discours-là, je l'ai entendu en repartant, je sais plus où, peut-être en Amérique du Sud, et je me suis dit, mon Dieu, en fait, ils sont en train de me donner la réponse de la préparation de mon futur. C'est-à-dire que si j'écoute les anciens et que je leur mets une vraie valeur à ce qu'ils vont dire, et on va pas dire, bah non, c'est des vieux, ils ont passé leur temps et en fait, ce qu'ils racontent, c'était bon pour leur temps, eh ben, je vais gagner du temps. Et moi, je pense que très, très, très jeune, j'ai compris qu'en écoutant les anciens ou en tout cas ceux qui avaient plus de connaissances, ben, j'allais gagner du temps. Oui, je m'écoute beaucoup, mais j'ai une petite voix intérieure. Et cette voix-là, ben, en fait, finalement, c'est la retranscription de tous les gens que j'ai pu croiser. Ça peut être de mes parents, de mes amis, des gens que j'ai rencontrés à l'autre bout du monde, qui fabriquent cette voix-là, qui me fait cette sorte de conscience et que je vais écouter parce que je vais y mettre une très grande importance.
Vous êtes un aventurier, un joaillier, mais aussi un dirigeant. Quels conseils donneriez-vous à d'autres chefs d'entreprise pour les aider à développer leur spiritualité managériale?
Je pilote ma société comme un avion. J'explique à mes collaborateurs que un pilote a besoin de cadrans et les cadrans, ce sont ses collaborateurs, justement. Il y en a qui donnent l'altitude, il y en a qui donnent le cap, il y en a qui... Mais la chose la plus complexe, c'est la météorologie. C'est la partie qui change le plus rapidement possible et qui peut vous surprendre. La météorologie, c'est les facteurs humains. En tout cas, moi, je l'imagine comme ça. On n'est jamais parfait. On n'est jamais parfait. Un entrepreneur n'est jamais parfait. Par contre, s'il n'est pas à l'écoute du moindre détail, du moindre changement chez ses collaborateurs, c'est là où il fait une erreur. Et donc, oui, je descends souvent, je suis dans mon bureau, mais je descends, je vais parler, on échange énormément, parce que c'est le lien fondamental d'un bon fonctionnement d'une société. Et c'est surtout l'acceptation que le chef d'entreprise peut aussi être mis en cause par ses collaborateurs, même par un jeune collaborateur qui peut avoir 20 ans, alors que vous en avez 25 de plus. Ça ne veut pas dire que vous allez vous remettre en question en permanence, mais on doit le faire. Et à côté de ça, vous devez aussi avoir une vraie autorité. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous laissez une très grande liberté à vos collaborateurs que vous allez aussi bouleverser vous aussi votre façon de penser pour se plier à leurs demandes en permanence. Parce que là, c'est là où on plonge dans un côté où il n'y a plus de hiérarchie. Et ça, c'est la pire des choses. L'homme a besoin d'hiérarchie, l'homme a besoin d'être guidé, et il a besoin d'avoir quelqu'un qui, lorsqu'on donne un c'est pas un ordre, mais C'est un conseil, et le conseil, on sait que c'est un ordre. En gros, c'est ça. C'est que la personne qui le dit mérite de le dire et que sa parole aura une valeur. Et ça, c'est le plus important. Le chef d'entreprise qui n'est pas respecté, c'est parce que peut-être sa parole, il dit un mot, il fait une promesse et puis c'est pas tenu. Et ça, c'est donc ça, c'est un des points, oui. Donc ça, c'est et j'adore moi le côté humain parce que c'est la partie la plus technique en fait dans la gestion d'une société, c'est ça. Il y a un point qui est important, c'est les passions que les gens peuvent avoir ou qu'on peut avoir, s'intéresser à tout. Parce que l'esprit humain, le corps humain, le cerveau humain a la capacité d'emmagasiner tellement de choses qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, les gens se mettent énormément de limites sur je vais m'intéresser à telle chose parce que en fait, c'est tellement vaste que je vais m'intéresser qu'à la musique classique. Et quand on étudie un peu le cerveau et les capacités du cerveau, c'est tellement incroyable que plus on s'intéresse à des choses, plus on apprend et surtout plus on peut rencontrer des gens dans divers domaines. Et ça, je pense que c'est, en tout cas, moi, c'était un facteur de découverte, de rencontres énormes sur plein de gens différents, parce que quand on s'intéresse à plein de sujets différents, eh ben, on est amené à rencontrer des gens qui ne pensent pas forcément comme vous, mais en tout cas qui vont avoir des liens. Et sur les passions, je trouve que c'est un point assez important.
Merci Raphaël Griffon d'avoir été avec nous et de nous avoir fait voyager. Dans le prochain épisode, j'ai souhaité donner la parole à une manageuse qui met l'accent sur les émotions et le corps, Leslie Prieur, directrice adjointe d'unité opérationnelle chez Orange. Et d'ici là, restez zen.